La maison d'Harriet Parer et Henry Kelly. Adresse 126 rue Queen. Numéro 301, stationnement municipal, côté sud de la rue Queen, entre les rues Bagot et de Montréal, et à côté de la construction à l'angle sud-ouest des rues Queen et Bagot. En 1835, des opposants à l'esclavage du comté d'Onondaga, dans l'État de New York, formèrent une société anti-esclavagiste, convainquant peu à peu d'autres personnes des effets pervers de l'esclavage. Leur influence grandit jusqu'à Syracuse, qui devint le point central de l'activité abolitionniste de l'État de New York, un point névralgique pour les chemins de fer clandestins. Vers la fin du mois de septembre 1839, Monsieur et Madame Davenport du Mississippi vinrent visiter Syracuse accompagné par une domestique appelée Harriet Parer. Ils s'installèrent à l'hôtel de Syracuse, où ils devinrent des notoriétés publiques comme esclaves pour le couple. Elle fut approchée par plusieurs employés de l'hôtel, lui offrant leur aide pour s'échapper. Après quelques hésitations, elle décida de s'y risquer, sachant bien qu'elle ne reverrait peut-être jamais sa mère et sa sœur, qui était elle-même retenue comme esclave par les Davenport. La nuit du 7 octobre, Harriet porta le chapeau et le manteau d'un homme, fuit l'hôtel et s'empressa de monter dans une diligence. En apprenant sa disparition, M. Davenport fit imprimer des affiches offrant $200 de récompense pour son retour. Il la décrivirent comme une personne tellement juste qu'elle aurait pu être prise pour une blanche. Après être passée par plusieurs maisons, elle finit par se retrouver chez Gary Smith, le célèbre abolitionniste dont la maison servait de gare au chemin de fer clandestin à Peterborough, New York. Henriette s'habilla comme une religieuse et transportée à cheval et diligence au Cap Vincent. Après avoir attendu une journée entière afin que le temps s'améliore, elle put finalement monter sur le ferry qui la mènera à la liberté le 29 octobre 1839. Une fois arrivée à Kingston, elle fut accueillie par M. et Mme Charles Halls. M. Halls était membre de la société missionnaire de l'Église méthodiste wesleyenne en 1830 et en 1836. Il épousa Elizabeth Charlotte Chettle, fille d'un ministre wesleyen en Angleterre. En 1839, elle travailla bénévolement à Female Benevol Society, une des premières sociétés de bienfaisance. Ceci explique probablement comment les Halls se trouvèrent à aider Harriet. Dans les années 1840, M. Halls était un marchand prospère possédant la Villa Bellevue sur la rue Centre, les Chalets Halls sur la rue King West, et le commercial Mott ou S et R à l'angle des rues Ontario et Princess. Peu après l'arrivée d'Henriette, Charlotte Halls envoya une lettre à Gary Smith afin de lui rappeler quelques détails. Cher monsieur, Kingston le 2 janvier 1840. Cher monsieur, même si vous ne me connaissez pas, je ne pense pas avoir à m'excuser de vous écrire. Harriet Parer habite avec moi depuis son arrivée à Kingston. Elle est plus impatiente d'avoir des nouvelles de sa mère et sa sœur. Et elle souhaiterait que vous écriviez particulièrement à sa mère. Si vous pouvez obtenir quelques informations à leur égard et les transmettre à Harriet, cette pauvre fille vous en serait très reconnaissante. Elle a bien reçu votre lettre du 6 décembre pour laquelle elle vous remercie vivement. Elle me charge de vous dire qu'elle est très contente et très à l'aise dans sa situation actuelle. Je lui enseigne l'écriture et elle continue avec lui. Je l'initierai à la lecture. Je trouve que cette jeune fille avait de bons principes moraux, mais elle est un peu étrangère aux choses et a trait à la liberté. Je suis heureuse de dire qu'elle semble prête à recevoir une instruction Et comme elle bénéficie aujourd'hui de nombreux privilèges religieux, je suis convaincue qu'elle serait vraiment convertie à Dieu. Nous avons eu vent à maintes reprises de la volonté de M. Danvanpour à la récupérer. Nous avons aussi compris que des hommes furent embauchés pour la kidnapper. J'ai du mal à croire que ceci est vrai. Mais nous préférons nous mettre sur nos gardes et ne pas lui permettre de sortir sans protection. Rien ne me prie de vous envoyer tout son amour à vous, M. Smith et à Laura, ainsi qu'à n'importe lequel de ses bons amis que vous croiserez. Elle souhaite que je vous dise à quel point elle est reconnaissante de la bienveillance que vous démontrez en l'aidant à obtenir sa liberté. Elle constate de grandes différences entre ici et le Mississippi, mais elle pense pouvoir s'y plaire. Henriette dit qu'elle n'a pas eu le désir d'y retourner, et aussi longtemps que ce sera le cas, nous sommes déterminés à la protéger. J'espère que vous aurez la gentillesse d'écrire à Henriette dès que vous pourrez obtenir toute information satisfaisante. Je vous envoie les meilleurs vœux pour la réussite de votre travail, de votre charité. Vœux agréés, cher monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs, Charlotte Hals. Très peu de temps après que cette lettre ait été écrite, Henriette épousa le musicien Henry Kelly le 23 avril 1840. Le journal abolitionniste L'ami de l'homme, Friend of Man, commenta l'heureux événement. Monsieur Kelly est un homme de couleur respectable avec une bonne situation financière et sa femme est devenue célèbre en quelques mois. Connue comme la Dame Blanche fugitive qui a eu la chance d'échapper aux griffes d'un propriétaire d'esclaves nommé Davenport à Syracuse l'automne dernier. Leur premier enfant, William Henry Kelly, naquit le 21 avril 1841, suivi de 5 frères et de 2 sœurs. Édouard, le cadet, naquit le 28 mars 1856. 3 de leurs enfants moururent très jeunes. De 1849 à 1866, les rapports d'évaluation indiquèrent que la famille louait une propriété numéro 301 de Jeanne Cox sur la rue Queen. Le plan de la ville de Kingston de 1850, dessiné par Gibbs, montre un petit bâtiment à l'emplacement 301 qui n'aurait occupé qu'une partie de ce qui est maintenant un stationnement municipal à l'ouest de l'édifice actuel, à l'angle sud-ouest des rues Queen et Bagot. Bien que la famille Kelly semblait, pour l'essentiel, mener une vie paisible et normale, l'année 1854 aurait mieux fait d'être oubliée. Leur sixième enfant, Henry, mourut le 26 juillet à l'âge de 2 ans et 7 mois. Puis vint le tour de leur septième enfant, Henriette Elisa, le 11 août à l'âge de 6 mois. Cette tragédie fut très vite suivie par ce qui a dû être une nuit de pure terreur. Le vendredi 10 novembre 1854, vers 23 heures, un incendie se déclencha dans un petit bâtiment à l'arrière des magasins chez Crête, à l'angle des rues Princesse et Bagot. Attisé par des vents forts, le feu se propagea rapidement à travers la range du bâtiment de bois et les cendres s'élevèrent aussi haut que le toit de l'église Saint-Paul, en diagonale de la rue Queen, en face de la résidence des Kelly. Il est peu probable qu'il ait décrit l'incendie de l'église dans les mêmes termes que le journaliste qui en fut témoin. Le vent balayait redoutablement les allées enflammées. Le bois massif de la toiture et les étages supérieurs s'écroula sur des piles de bois brûlantes qui tourbillonnaient en s'embrassant dans des forts et rapides courants d'air. Les éléments réunis rugissaient et soupiraient comme un millier de fous poussés à pleine puissance. Un tiers du bloc où ils vécurent, l'église et la moitié du bloc délimités par les rues Queen et Barrack, ainsi que Wellington et King, furent consommés. Henriette mourut à l'âge de 45 ans le 8 avril 1900. Henriette mourut à l'âge de 45 ans le 8 février 1860, d'après les registres de la paroisse Saint-Paul à Kingston. Henri mourut à Bormanville le 14 mars 1874, rejoignit sa femme au cimetière Cataraqui. Ils furent enterrés sur le flanc d'une colline, sous un grand érable. La pierre tombale dit qu'elle mourut le 5 février 1859 à l'âge de 40 ans, ce qui ne correspond pas au registre de l'Église. William Jerry Henry, un autre fugitif de Syracuse. William Jerry Henry, comme Henriette Powell, fut un célèbre esclave fugitif de Syracuse. Tous deux reçurent de l'aide pour fuir vers la liberté à Kingston. Après avoir fui une vie esclavage dans le sud, il travaillait comme un tonnelier à Syracuse dans l'État de New York. Le 1er octobre 1851, en vertu de la loi sur les esclaves fugitifs, il fut saisi sur son lieu de travail et emmené devant un juge. Par pure coïncidence, une convention du Parti de la Liberté contre l'esclavage se tenait à Syracuse. Très vite, des abolitionnistes locaux et les membres de la convention convergèrent au bureau du commissaire où il était détenu. Après avoir défoncé les portes et les fenêtres, la foule nombreuse contraignit la police à le rendre Jerry. Il fut caché quelques jours dans la ville avant de traverser clandestinement le lac Ontario dans une goélette britannique vers Kingston. Accueilli par Joseph George, un ami des esclaves, il commença très vite à travailler pour M. Chester Hatch, un célèbre fabricant de chaises à Kingston de 1817 à 1857. Dans les rapports d'évaluation du comté de Saint-Laurent de 1853, Jerry est répertorié juste en dessous de M. Hatch et tous deux sont catégorisés comme fabricants de chaises. William Henry mourut à Kingston le 8 octobre 1953. Sa célèbre évasion est connue sous le nom de Jerry Rescue, le sauvetage de Jerry. Un grand monument commémore l'événement à Syracuse.